Je m'appelle Morgane, je suis journaliste à Paris et je vais vous parler d'un pays complètement anachronique aujourd'hui, un voyage qui m'a beaucoup marqué, qui était à la fois dépaysant sur le plan géographique et sur le plan temporel même, puisqu'il s'agit de la Corée du Nord, ce pays coincé dans un système complètement absurde aujourd'hui.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Morgane raconte la Corée du Nord. Avec lui, on a parlé d'histoire, d'un hôpital et du pouvoir de la propagande.
J'ai bourlingué à travers le monde. Alors j'ai la réputation avec mes amis en fait de voyager dans des pays complètement bizarres. Alors qu'en fait, si j'y suis allé, c'est un peu par hasard. À la base, je voyageais pas spécialement dans des pays étranges, mais un jour avec un ami tintinophile, on s'est dit que ce serait amusant d'aller visiter les pays où Tintin est allé dans ses aventures. Donc je suis allé en Amérique, je suis allé en Égypte en 2013, comme dans les cigares du Pharaon, et en 2014, j'avais décidé d'aller en Chine pour faire Tintin au Tibet. Ce qu'il faut savoir avec le Tibet, c'est que c'est un endroit, enfin une province chinoise, où on ne peut pas aller tout seul. Il faut absolument une agence, il faut y aller en groupe, et il faut que ce soit agréé par le gouvernement chinois. Donc je suis parti en recherche en fait d'une agence qui me permettait d'y aller, et j'en suis tombé sur une dont la spécialité, c'était la Corée du Nord, justement. Ils proposaient des voyages au Tibet, dans les pays de l'ex-Union soviétique, et également dans ce pays où je n'imaginais même pas qu'on pouvait aller. Donc je suis arrivé sur leur site, je me suis dit, mais enfin, un voyage en Corée du Nord, qui voudrait être ça, quoi? Qu'est-ce qu'on peut y faire? J'ai regardé les itinéraires, je me suis dit, ça a l'air intéressant, personne n'en parle, personne n'y est allé. J'étais très curieux, donc j'ai commencé à rechercher un peu plus d'informations sur ces voyages, et j'ai découvert que c'était interdit aux journalistes. Tout le monde peut y aller, c'est même assez simple d'y aller, hein, le visa est beaucoup plus simple que pour aller en Chine, par exemple, ou même en Russie, enfin en Russie à l'époque, et c'est simplement interdit aux journalistes et aux militaires. Ça m'a vachement frustré, parce que j'avais commencé à me dire que peut-être que j'irais, et je me suis dit, mais c'est complètement absurde cette histoire, qu'est-ce que ça peut leur faire qu'on soit journaliste? Concrètement, des journalistes, il y en a des dizaines de différents, tu peux être journaliste chez Mickey Magazine, c'est pas la même chose que d'être au Monde ou au Figaro. Et surtout, les journalistes ont aussi le droit de partir en voyage en dehors du travail. Tout ça pour dire que ça m'a énervé cette histoire de journaliste qui n'avait pas le droit d'aller en Corée du Nord, et j'ai donc décidé de réserver un voyage. En mentant sur la fiche de renseignement. Je leur ai dit que j'étais consultant en e-santé, puisqu'à l'époque j'étais journaliste en la e-santé, et en prévenant en fait le directeur de mon entreprise et la secrétaire à l'accueil, que si un jour la Corée du Nord téléphonait, puisqu'il faut laisser, il faut donner sa profession, il faut également laisser le numéro de téléphone de l'entreprise où on travaille, je leur avais dit, si la Corée du Nord appelle, vous dites surtout pas que je suis journaliste. Donc j'ai nettoyé mes réseaux sociaux, j'ai enlevé sur ma biographie Twitter que j'étais journaliste, et je me suis dit, ça devrait aller, et si jamais ils font une recherche Google, je dirais que j'ai un homonyme. Chose que je n'ai pas en plus, j'ai absolument pas d'homonyme. Enfin. Donc ils font parfois des recherches, moi j'ai eu la chance, et ils ne l'ont pas fait, donc je suis passé entre les mailles du filet. J'ai fait ce voyage au Tibet qui était prévu, et de Lhasa, donc la capitale du Tibet, j'ai pris le train jusqu'à Pyongyang. Donc c'est 72 heures de train. Donc c'était deux voyages séparés que j'avais réservés avec la même agence, et il y avait simplement une escale à Beijing de quelques heures pour retrouver le groupe en fait de touristes qui allaient en Corée du Nord, et également pour avoir un briefing de sécurité avant ce voyage. Moi habituellement je voyage pas en groupe en fait, mais là j'ai fait une exception pour la Corée du Nord. Pas parce que c'est impossible d'y aller en individuel, c'est tout à fait possible, mais tout simplement à cause de la façon dont un voyage se passe là-bas. Il faut savoir qu'on est forcément avec des guides nord-coréens, avec deux guides nord-coréens d'ailleurs, parce qu'ils se surveillent l'un l'autre. Ils surveillent nous et ils surveillent l'un l'autre. Et le truc, c'est que deux guides qui surveillent une personne, ça laisse pas beaucoup de liberté, alors que deux guides qui en surveillent 15... Ça permet de temps en temps de sortir un peu du groupe, d'essayer de faire des choses un peu en loose day. Donc je m'étais dit, il vaut mieux que j'aille dans un groupe, j'aurai plus de liberté. Et également, je me voyais aussi pas aller dans un pays comme ça la première fois en plus, sans avoir personne à qui parler, en fait, à part des Nord-Coréens. Je me disais que ça allait être une expérience quand même particulière. Donc voilà pourquoi c'était un voyage en groupe. Donc je suis arrivé... À Beijing, j'ai rencontré les autres voyageurs. On a eu nos consignes de sécurité de la part d'un guide occidental qui nous accompagne aussi sur place.
qui est là en particulier pour répondre aux questions qu'on n'oserait pas ou qu'on ne devrait pas poser aux Nord-Coréens. Et il y en aura beaucoup le long du voyage. Des questions parfois toutes simples pour nous, hein, comme par exemple combien de jours de vacances vous avez par an, ça un Nord-Coréen ne vous donnera pas la réponse, il fera semblant de ne pas comprendre la question, ou des questions qu'on ne poserait pas par politesse, hein. Celle qui vient à l'esprit de tout le monde sur place, c'est est-ce qu'il croit vraiment aux conneries qu'il nous raconte, parce que ça, il y en a beaucoup aussi. Donc, sur ce briefing, on a quelques règles de sécurité. La première, c'est vraiment de ne pas faire les idiots. Je m'en souviens très bien, c'était le premier truc qu'ils nous ont dit, c'est « don't be stupid ». Et ça veut dire, n'allez pas crier sur tous les toits que vous êtes contre la dictature. N'allez pas manquer de respect aux Nord-Coréens, aux Kim. N'allez pas laisser des bibles dans les hôtels. Ça s'est arrivé, un Américain qui avait décidé de semer des bibles derrière lui pour essayer de les évangéliser. Ça s'est mal fini pour lui, bon, il s'est fait expulser. N'allez pas voler des choses aussi, comme c'est arrivé à un jeune Américain, Otto Van Beer, qui a été arrêté, qui a été condamné à 15 ans de travaux forcés, qui est tombé malade et décédé, malheureusement. Donc vraiment, c'était pas des règles précises sur la Corée du Nord, c'était plus pour nous dire, voilà, vous venez de pays plus ou moins laxistes sur certaines choses, ce que vous oseriez faire chez vous, ou dans d'autres pays, n'allez pas le faire ailleurs. Après ce briefing, donc on a pris le train pour aller jusqu'à Pyongyang. C'est à peu près 24 heures de train depuis Beijing, donc il m'était déjà tapé 48 heures de train depuis Lhasa, ça commençait à faire long. Mais c'était une volonté de ma part, parce que c'est possible d'y aller en avion. Et je me disais que le train, ça permettait déjà de faire une arrivée plus en douceur dans le pays, et surtout de découvrir un aspect du pays qu'on ne verrait pas, à savoir la campagne. Puisque un voyage en Corée du Nord, c'est très très organisé, et ils nous montrent vraiment ce qu'ils veulent qu'on voit. Donc c'est surtout les grandes villes riches, Pyongyang en particulier, mais aussi quelques autres dont je vais parler tout à l'heure, et on ne voit pas en fait vraiment le fin fond du pays. Ma première vision de Dangdong vers la Corée du Nord était assez intéressante, puisque ils ont construit en fait à la frontière un parc d'attractions, avec une grande roue, plein de manèges, enfin, un énorme parc aquatique également, avec des toboggans, etc. Et vu de la Chine, on se dit, waouh, c'est, ils ont fait un parc d'attractions, c'est étonnant. Bon, nous, occidentaux, on sait que c'est un côté propagandiste, mais les Chinois, ils doivent se dire, ils vivent bien de l'autre côté de la rivière. Et le truc intéressant, très révélateur, je trouve, c'est que quand on a traversé la rivière, donc sur un pont avec le train, on s'est rendu compte que ce parc, en fait, était en déliquescence totale, que les manèges tombaient en ruine, et la première chose que j'ai vue, c'est une femme assise sur une balançoire en train de pleurer. Et là, je me suis dit, waouh, dans quel pays j'arrive? Et cette image de cette femme qui pleure dans un manège complètement délabré, qui a été construit à des fins de propagande, c'est vraiment, je trouve, c'était ma première image de la Corée du Nord, et c'est sans doute celle qui résume le mieux, en fait, le pays. Après donc cette traversée de frontières, on a continué donc en Corée du Nord, dans cette campagne extrêmement pauvre, très peu de routes goudronnées, de la propagande partout, des statues, des mosaïques, des affiches, des haut-parleurs dans les champs qui diffusent des slogans, etc. Le train en fait allait très lentement, donc on avait vraiment le temps de se plonger, de voir tout ça. Ça a permis de voir la pauvreté aussi, et notamment la façon dont la population s'adapte à cette pauvreté. Par exemple, quelque chose qui m'a marqué, c'est que tout est cultivé. Il n'y a pas le moindre espace, il n'y a pas un bout d'herbe ou quelque chose comme ça qui ne soit pas cultivé. Il y a du maïs partout, sur les talus, dans les champs, sur les bords des routes, etc. Vraiment, le moindre espace est occupé par des plantations, parce qu'il faut bien nourrir cette population qui vit complètement en autarcie. Donc, on arrive à Pyongyang, on rencontre nos guides nord-coréens, donc un homme et une femme, Monsieur Park et Madame Peng, qui nous conduisent à notre hôtel, le Yanggakdo, qui est aussi l'hôtel le plus célèbre de Pyongyang, qui est un hôtel sur une île, pas parce que c'est joli, mais tout simplement parce qu'une île, c'est facile à protéger. Il y a des soldats sur chaque pont, donc au moins on est sûr de ne pas pouvoir s'en échapper. Et qui est un hôtel qui a une particularité, c'est qu'il y a un étage qui est complètement interdit, c'est l'étage, le cinquième étage. Donc, dans l'ascenseur, il n'y a pas de bouton 5, par exemple. Et c'est un étage où, selon la rumeur, il y aurait tous les équipements de surveillance des chambres. Donc c'est voilà, c'est encore là aussi une atmosphère un peu particulière. On arrive, on se dit qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, faut faire attention comment on réagit, comment on s'adresse aux gens, etc. Je me suis fait engueuler, en fait, dès mon arrivée à l'hôtel, par une Nord-Coréenne qui, en fait, s'est offusquée de mon t-shirt où il y avait écrit « Bienvenue en Corée du Nord ». Parce que pour eux, c'est pas la Corée du Nord, c'est la République populaire démocratique de Corée. Corée du Nord, c'est un terme d'occidentaux. Donc, elle est arrivée, elle m'a dit « Ton t-shirt m'offense, il faut que tu ailles te changer ». Donc je monte dans la chambre, c'est donc le meilleur hôtel de Pyongyang, j'allume ma lampe de chevet et tous les fusibles sautent, je me dis bon, ça commence bien, et finalement on va au resto, c'est vraiment la première soirée, on va un peu chanter au karaoké aussi, parce qu'il y a une salle de karaoké, une salle de bowling, etc. dans l'hôtel, c'est vraiment, il y a beaucoup d'équipements, et on finit par aller se coucher, parce que les journées suivantes vont être très très chargées. Le lendemain, qui est notre premier vraie journée de visite, on commence par faire un tour de Pyongyang, des monuments emblématiques, et le premier d'entre eux, c'est le parc Mansudae, où se trouvent les deux énormes statues des grands leaders, donc Kim Il-sung, qui était le tout premier, qui est le grand-père de l'actuel, et Kim Jong-il. Ces deux statues sont absolument impressionnantes, font 20 mètres de haut, on se sent vraiment tout petit à côté, et on comprend très vite pourquoi, hein. C'est tout simplement un culte de la personnalité qui se poursuit après la mort, et on le comprend d'autant plus que les guides nous expliquent comment il faut parler des anciens leaders. Par exemple, Kim Il-sung, c'est le président éternel. Donc quand on parle de lui, on ne dit pas « c'est une statue de Kim Il-sung », parce que ce serait irrespectueux, on dit « c'est une statue du président éternel Kim Il-sung ». À côté, c'est une statue du général Kim Jong-il. Et quand on parle de l'actuel, c'est le maréchal Kim Jong-un. Dans cette ville, on se déplace, nous, en tant que touristes, un peu à pied, quand les sites sont pas loin, en bus, et aussi en métro, qui est comme celui de Moscou, celui de Saint-Pétersbourg, qui était vraiment aussi un moyen de vraiment d'exalter le régime aussi. Donc c'est vraiment de très très beaux endroits, avec des chandeliers partout, du marbre, etc. Donc un très très beau métro, qui nous mène jusqu'à l'Arc de Triomphe de Pyongyang, qui est un peu plus grand que notre Arc de Triomphe à nous, à Paris. La propagande nord-coréenne dit que notre Arc de Triomphe pourrait aller en dessous du leur, à l'intérieur de l'arche, en fait. J'ai vérifié sur Wikipédia, c'est pas vrai du tout, hein, ils font à peu près la même taille. Le lendemain, après cette visite de Pyongyang, visite un peu express de tous les monuments principaux, je vis une des expériences les plus bizarres de ma vie, puisqu'on se rend au Palais du Soleil, où en fait sont exposés les corps embaumés de Kim Il-sung et de Kim Jong-il. C'était en fait le palais où vivait Kim Il-sung, et quand il est mort, ils ont décidé d'en faire un mausolée géant. C'est une visite très particulière, parce qu'il n'y a pas d'endroit plus sacré pour les Nord-Coréens. Avant de venir en Corée, on nous avait prévenu qu'il fallait être bien habillé pour cette visite-là. Donc moi je suis en costume, chemise, on est tous en costume chemise, en tailleur pour les femmes, etc. On arrive dans cet endroit où il y a une atmosphère pesante, comme j'en ai jamais vu ailleurs. On a vraiment l'impression, en fait, que si on éclate de rire, on va briser un silence millénaire, et surtout on risque de se faire fusiller. On rentre dans ce palais, en rang, 4x4, dans le silence le plus total. On arrive devant le cercueil en verre de Kim Il-sung, et on doit s'incliner 3 fois, donc une fois en face, une fois de chaque côté, avant de passer dans la pièce suivante, où se trouve Kim Jong-il, la rebelote. On s'incline devant, de chaque côté, on s'incline 3 fois d'ailleurs, donc on s'incline 9 fois en tout, et on passe dans une salle qui s'appelle la salle des lamentations. Une Nord-Coréenne commence à nous raconter l'histoire du lieu et l'histoire des deux grands leaders, en pleurant. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait beaucoup d'images qui avaient fait le tour du monde quand Kim Jong-il était mort, de ces Nord-Coréens qui pleuraient dans la rue, qui se frappaient la poitrine, etc., des sortes vraiment d'expressions publiques, de tristesse, etc. Et là, c'est la même chose. Alors, c'est la même chose quelques années après son décès. Donc, en termes de sincérité, on n'est pas vraiment sûr que ce soit vraiment qu'elle pense vraiment, mais elle nous fait cette visite en pleurant. Et c'est tellement surjoué, c'est tellement théâtral, et c'est tellement absurde surtout, que je suis prêt à exploser de rire. Alors, s'il y a un truc qu'il ne faut pas que je fasse, c'est ça. Donc, je me mords l'intérieur des joues pour essayer vraiment de ne pas rire. Je me retourne pour pas que la guide me voie. Et là, je vois qu'il y a deux autres touristes derrière moi qui sont exactement dans le même état, qu'on est en train de se dire, enfin, eux, ils sont en train de souffler, un peu comme s'ils allaient accoucher, en se disant, ne pas réagir. Donc, honnêtement, je n'ai absolument aucune idée de ce que cette guide nous a raconté, parce que j'étais tellement concentré à garder mon sérieux que je ne m'en souviens pas. Donc heureusement, cette séance de pleurs en fait n'était valable que pour une salle. Ensuite, on passe dans les salles suivantes et là, ça redevient normal. Voilà, on continue, on se sort de ce bâtiment. Et c'est là qu'on se dit que finalement, heureusement qu'on est en groupe pour qu'on puisse parler, en fait, qu'on puisse échanger sur ce qu'on a vécu. Et un peu, qu'on souffle un peu, en fait, on se vide la tête, qu'on commence à blaguer, etc. Parce qu'on a vécu quelque chose qui était inimaginable. Enfin, je suis allé dans le mausolée de Lénine en Russie, c'est rien du tout à côté de ça. Hein. Et pourtant, ils sont plutôt sérieux là-bas aussi. Après ça, on va dans un endroit, je dirais, encore pire, dans un sens, c'est le palais des écoliers. C'est en fait une zone où, après l'école, en fait, les enfants nord-coréens vont, ceux qui ont un peu de talent, pour apprendre la calligraphie, le piano, l'accordéon, etc. On arrive et on est accueilli par ces enfants qui nous font faire le tour des différentes salles de classe. Et là, en fait, on sent un malaise, mais vraiment qu'on n'a pas encore connu depuis le début du séjour. Parce qu'il n'y a aucune joie de vivre. C'est un palais des écoliers où il n'y a pas de rire, il n'y a pas de sourire. Ils sont là comme des bêtes de foire ou comme des robots qui apprennent quelque chose et on sent que c'est pas par plaisir. C'est parce qu'il faut qu'ils soient parfaits sur tel instrument ou tel art et il n'y a pas de place à l'improvisation. Et ils nous montrent des spectacles où il y a, je me souviens par exemple d'une salle où il y avait 20 jeunes filles qui devaient avoir 8 ou 9 ans, qui étaient alignées à jouer de l'accordéon, mais de manière parfaitement synchronisée. On aurait mis 20 droïdes en face de nous à jouer de l'accordéon, c'était pareil. Tout était absolument identique. Et là, on s'est dit, c'est pas normal. Ça fait maintenant 2 jours qu'on est en Corée du Nord, c'est la première fois qu'on sent ce malaise. À se dire, ok, on n'est vraiment pas dans un pays normal. Ce qui est un peu paradoxal, parce que concrètement, on savait qu'on n'était pas dans un pays normal. Mais tout est fait là-bas pour nous faire croire que si. Les restos où on va, c'est toujours les meilleurs restos. Les hôtels, ils sont plutôt sympas. Les gens qu'on croise dans la rue, ils nous regardent ou ils ne regardent pas. Enfin, comme dans n'importe quel pays, en fait, ils font comme si on n'était pas là parce que c'est pas spécialement bizarre pour eux de voir des Occidentaux, etc. Donc, finalement, on a presque l'impression d'être dans un pays normal. Et là, alors qu'ils voulaient nous montrer, justement, regarder comment on s'occupe bien des enfants, on leur donne des cours, etc., c'est là qu'on découvre tous qu'on est dans une sorte de dystopie totalitaire, complètement folle. On sort, on prend le bus, et là on sort de Pyongyang, puisqu'on va dans le sud du pays, à la frontière avec la Corée du Sud, où on passe la nuit dans une ville qui s'appelle Kaesong, qui est une très belle ville, avec beaucoup de maisons traditionnelles, etc., qui est une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est une ville qui se situe à quelques kilomètres de la frontière. Donc le lendemain, en fait, on va à la zone démilitarisée, qui, en fait, ne porte pas bien son nom du tout, puisque c'est une des zones les plus militarisées au monde, et qu'on est accueilli par des soldats qui nous expliquent le rôle, en fait, de cette zone. Pour eux, c'est tout simplement protéger la Corée du Nord contre les Américains. Même pas contre les Coréens du Sud, hein, vraiment contre les Américains. C'est une visite qui m'a pas particulièrement intéressé. Et voilà, le seul point un peu intéressant, c'est que il y a un baraquement entre pile à la frontière en fait qui permet de faire quelques pas en Corée du Sud. Nous, on s'en fichait un peu, mais c'est possible de faire cette visite du Sud. Donc ça, les gens aiment bien parce que du coup, ils peuvent faire quelques pas en Corée du Nord. D'ailleurs, les personnes que je connais qui ont fait les deux, qui sont allées visiter de chaque côté, me disent que en Corée du Sud, c'est beaucoup plus sérieux qu'au Nord. Nous, on blaguait, on s'est retrouvé un moment à chanter avec un soldat, parce que les Nord-Coréens adorent chanter, adorent le karaoké. Et on sent qu'ils ne sont pas hyper stressés, hein, que l'invasion américaine, a priori, elle n'est pas prévue pour demain. Ce que me disaient les gens qui sont allés en Corée du Sud, c'est qu'à l'inverse, là-bas, ils sont accueillis par des soldats sud-coréens ou américains, qui leur disent « Attention, on ne sait pas quand la Corée du Nord va attaquer, il faut faire super gaffe, c'est très dangereux comme visite, etc. » Donc une vraie tension qui existe sur le côté sud de la frontière, pas au nord, ce qui est un peu intéressant aussi à se dire, parce qu'on aurait pu penser que ce serait l'inverse. Donc les jours suivants nous font voir pas mal de choses. On va visiter des usines, un hôpital, un orphelinat. Quand je dis ça, ça fait pas rêver, hein. On ne va pas dans un pays pour visiter des usines habituellement. Mais c'était très intéressant, parce que c'est là que s'est posée la question qu'on se posait aussi tous à un moment, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ils nous montrent des choses qui vont très bien, des usines, voilà, de l'équipement de dernier cri, un hôpital magnifique, tout en marbre, avec des infirmières qui pourraient toutes être mannequins, hein, tellement qu'elles sont toutes super belles, etc. Mais là, on se dit, il y a quand même des choses étranges. Par exemple, dans l'usine, il n'y a personne qui y travaille, en fait. Il y a quelques personnes qui sont là, qui nous regardent, mais il n'y a pas de camion devant, il n'y a pas de chargement, déchargement, il n'y a pas de bruit. Une usine, c'est bruyant, normalement. À l'hôpital, il n'y a pas de patients. Donc on nous fait visiter plein de zones, même des chambres, et on demande, mais pourquoi il n'y a personne ? Alors on nous explique qu'en fait, les patients, il faut respecter leur secret médical, donc on ne peut pas en voir. Mais on se dit, mais c'est quand même bizarre, enfin même dans les couloirs, etc., les gens ne voient pas. Donc finalement, de mauvaise fortune, bon cœur, ils nous amènent dans une chambre où il y a deux patientes qui sont assises sur un lit qui n'est pas fait. Il n'y a rien dans la chambre, il n'y a pas de sac, il n'y a pas de vêtements. Donc là, on se dit, ok, ils se fichent un peu de nous quand même. Et ce sentiment, en fait, on l'aura à de nombreuses reprises en Corée du Nord. Alors ça, les Nord-Coréens, en particulier, mais même les agences occidentales qui amènent des touristes là-bas, disent, mais non, bien sûr que non, c'est faux, ils n'auraient aucun intérêt à faire ça, ils n'iraient pas se faire chier à construire un hôpital tout neuf pour le faire visiter à 2000 touristes. Ça n'a aucun sens. Certes, ça n'a aucun sens, mais on se dit, d'un autre côté, ça peut être aussi de la propagande à destination des Nord-Coréens eux-mêmes. Dire, vous voyez, on a un hôpital dernier cri, alors vous ne pouvez pas y aller parce que vous êtes trop pauvre, désolé, mais on est quand même capable de faire ça. Moi, je reste persuadé que ces usines qu'on a vues, elles ne produisaient rien du tout, et que cet hôpital n'avait jamais vu de patients. Et finalement, le fait de savoir si c'est vrai ou faux, c'est des questions qu'on ne pose pas, qu'on ne pose pas aux guides, tout comme on ne leur demande pas s'ils croient vraiment à tout ce qu'ils nous racontent. S'ils croient vraiment, par exemple, que c'est grâce à Kim Il-sung que les ingénieurs du métro ont réussi à résoudre le problème d'inondation des galeries. Parce que partout où on va, en fait, toutes les visites sont basées sur ce qu'ont dit les grands leaders, ou ce qu'ont fait les grands leaders. Ce ne sont jamais les Nord-Coréens qui ont fait des choses. Ce ne sont jamais leurs ingénieurs, leurs techniciens, leurs docteurs. C'est toujours, ils avaient un problème, mais heureusement, le grand leader est venu et a trouvé la solution. Tout là-bas est basé sur ça, sur cette élite, c'est même plus une élite, c'est sur des demi-dieux, en fait, qui finalement dictent tout dans leur vie. Et c'est très difficile d'en parler, puisque ce serait comme, en gros, aller en Arabie Saoudite et demander, mais vous y croyez vraiment à Allah ? C'est vraiment ça, aller dire à un Nord-Coréen, mais vous croyez vraiment qu'ils ont fait tout ça, vos leaders ? Ce serait le manque de respect le plus total. Donc forcément, on ne le fait pas, mais on y pense tous. Et on se demande tous, vraiment, eux, qu'est-ce qu'ils pensent, quoi ? Est-ce qu'ils y croient ou pas ? Et ça, c'est la question dont on n'aura jamais la réponse. Suite à ces visites, j'ai eu quand même une journée un peu particulière en Corée du Nord, puisque j'ai fêté mon anniversaire là-bas. Une journée un peu particulière, parce qu'on a commencé par un peu de détente dans une ville portuaire, Wonsan. Donc on est allé à la plage, on a joué au volet, etc. Ensuite on a pique-niqué. L'après-midi on est rentré à Pyongyang, et là en fait le guide nord-coréen avec qui j'avais beaucoup sympathisé avait décidé de nous amener au stand de tir, parce qu'il avait appris que je faisais du tir sportif ici en France, et donc il avait décidé pour mon anniversaire de me faire plaisir, donc d'amener tout le groupe là-bas. C'était assez intéressant, mais ça m'a encore perturbé sur certains aspects. Par exemple, quand ils nous ont demandé si on voulait mettre des animaux à la place des cibles, on s'est dit « Pardon ?» Ben oui, vous voulez pas mettre des poulets ou des choses comme ça ? Mais pourquoi on ferait ça ? Vous êtes complètement jeté. Ah ben, parce que c'est plus rigolo quand même. Ok. Alors, bon, nous, dans le groupe, il y avait un Américain qui était là, un ancien GI, qui a décidé, lui, de « Ok, je vais le faire ». Il a pris un poulet, il l'a mis dans sa cage à 25 mètres, a tiré, et en fait a tué le poulet d'une balle dans la tête. Et là, les Nord-Coréens lui ont dit mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Mais comment ça, c'est pas ça qu'il fallait faire? Mais non, mais il faut pas tirer dans la tête, parce que là, c'est plus drôle, il est mort tout de suite. Et là, on les a regardés, on s'est dit, mais waouh, on est vraiment dans un pays très différent. Et on se dit, mais quand on voit comment ils traitent les animaux, on comprend finalement qu'il y a des choses qui vont pas, hein, parce que j'en ai pas parlé, parce que c'est pas trop le sujet du podcast, mais enfin, on en parlera sans doute après dans la conversation. La Corée du Nord, faut pas oublier... Malgré le fait qu'il y ait des touristes qui y aillent, etc., il y a un aspect moral à y aller. C'est un pays avec des camps de concentration où il n'y a absolument aucun droit, etc. En tant que touriste sur place, on a un peu tendance à l'oublier, ou on fait exprès de l'oublier aussi, hein, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Mais quand nos guides, qui sont super sympas au demeurant, avec qui on a bu des bières, on a chanté au karaoké et tout ça, nous disent que finalement on n'a pas assez torturé l'animal, on se dit « Ok, il y a quand même quelque chose qui ne va pas ici, quoi ». Et donc voilà, la journée continue après ça, on termine, on va dans une brasserie boire quelques bières. Ceux qui ont vu la série Crash Landing on You la reconnaîtront peut-être, c'est une brasserie en fait où en fait on choisit les bières en fonction d'un numéro. Donc moi j'ai bu la numéro 2, parce que de toute façon je savais pas, ça allait de 1 à 9, on m'a dit laquelle tu veux de 1 à 9, bon la 2, je vois pas trop la différence entre chaque. Et ensuite on est allé à l'unique pizzeria du pays, qui a été ouverte, puisqu'un jour, Kim Jong-un avait décidé qu'il avait envie de pizza dans son pays. Donc il a envoyé des cuisiniers nord-coréens en Italie pour qu'ils apprennent à faire des pizzas. Donc, ils sont revenus, ils savaient faire des pizzas, le problème c'est qu'ils n'avaient pas des ingrédients pour, à cause des sanctions. Donc bon, ils font des pizzas, hein, ce ne sera pas des pizzas comme vous pourrez en avoir en Italie, mais ça se mange. Et cette soirée s'est terminée, voilà. Comme quasiment toutes les soirées, avec du karaoké, j'ai eu un gâteau... un gros bouquet de fleurs, etc. Donc c'était une ambiance assez particulière, et surtout une journée très particulière, dans la mesure où, en Corée du Nord, il n'y a pas de réseau téléphonique et il n'y a pas Internet. Donc je me suis dit, finalement, c'est sans doute la dernière fois de ma vie que je fêterai mon anniversaire complètement coupé du monde extérieur, où personne ne m'a fêté mon anniversaire, à part les gens qui étaient avec moi. Donc voilà, j'avais l'impression de revenir un peu dans ma jeunesse, finalement, à l'époque où on n'avait pas tous ces téléphones. Les jours suivants, on va dans différents sites, hein, un village où vivaient les héros de la lutte contre la colonisation japonaise, cimetière des héros de la lutte contre la colonisation japonaise. C'est un peu toujours les mêmes thèmes qui reviennent, hein, en Corée du Nord. C'est soit la lutte contre la colonisation japonaise, soit la guerre de Corée. Et d'ailleurs, on est allé au musée à Pyongyang, au musée de la guerre de Corée, qui est un exemple de propagande assez incroyable, qui est une réécriture complète de ce qui s'est passé. Alors le musée en lui-même est magnifique, il y a des statues de 30 mètres de haut, de soldats, etc. C'est vraiment incroyable, ils sont super forts pour faire des statues, les Nord-Coréens. C'est vraiment impressionnant. Par contre, quand on commence à lire ce qui est écrit sur les écriteaux ou à regarder les petits films, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Alors en gros, pour ceux qui le savent pas, et en 30 secondes, en 1950, la Corée du Nord décide d'attaquer la Corée du Sud, envahit toute la péninsule, en fait, arrive vraiment tout au sud de la Corée du Sud. Les Américains interviennent, avec d'autres pays occidentaux, repoussent les Nord-Coréens tout au nord, en fait, de la Corée du Nord. La Chine décide d'intervenir, et au prix de 2 millions de morts, réussit à repousser les Américains, enfin, les Occidentaux, jusqu'au 38e parallèle, donc ils coupent le pays en deux. Et là, en gros, le front se stabilise, et en 1953, ils décident de signer un armistice. Ça, c'est pas du tout ce qu'ils racontent les Nord-Coréens. Pour eux, ils ont déclaré la guerre en 1950, ils ont envahi toute la péninsule, ensuite ils ont fait une petite retraite stratégique jusqu'au 38e parallèle, et ils ont signé l'armistice. Le fait qu'ils se soient fait envahir complètement, c'est passé sous silence. Le fait que les Chinois soient venus les aider, c'est passé sous silence aussi. Et ce qui est fou, c'est que les ficelles sont vraiment très très grosses. Mais en sortant de là, il y a quand même des gens, et je pense notamment à une femme américaine qui était là avec son fils, qui a dit « Ah, mais ça va être compliqué maintenant pour mon fils quand il va aller à l'école et qu'il sera interrogé là-dessus, parce qu'il pourra pas écrire ce que veulent ses profs. » Mais comment ça, il pourra pas écrire ce que veulent ses profs? Ben non, parce que maintenant qu'il connaît la vérité, il sait que ce qu'il a appris à l'école, c'était n'importe quoi. Fait, non, mais tu crois vraiment pas ce qu'ils ont raconté là dans le musée, parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Hein. Et d'ailleurs, enfin même au-delà de c'est même pas une question de savoir ce qui s'est passé ou pas, c'est juste que ça n'avait aucune logique. Leur truc, eux, ils sont passés de 1950 à 1953 dans leurs explications, il s'est jamais rien passé en 51-52. Enfin, ça tient pas debout, leur histoire. Et elle, non, moi je crois vraiment, de toute façon, nous aux États-Unis, on est abreuvés de propagande. Ici, de toute façon, ils étaient là, ils savent ce qui s'est passé. Et sur le coup, on était plusieurs à se dire, mais c'est fou la propagande, parce que ça marche, en fait. Et il y a d'autres personnes dans le groupe qui, toujours aujourd'hui, hein, j'ai gardé contact avec eux, sont persuadés que la Corée du Nord, c'est pas si mal que ça, hein, que les gens, ils vivent bien, ils sont plutôt heureux, ils mangent bien, ils sont beaucoup plus solidaires que nous, les occidentaux individualistes décadents, et ont vraiment gobé tout ce qu'on leur a raconté. Mais ça fait vraiment peur, quoi. Et ça a été vraiment... Enfin, aussi un des moments où je me suis dit, voilà, c'est quand même un voyage assez particulier, parce qu'il m'a permis de découvrir un pays... Et il m'a aussi permis de découvrir beaucoup de choses sur la nature humaine. Donc cette visite du musée était en fait une des toutes dernières visites en Corée du Nord, parce qu'après, donc au bout de 10 jours sur place, Je dois rentrer finalement, puisque j'aurais pu rester plus longtemps, mais c'est relativement cher un voyage en Corée du Nord. C'est un bon moyen pour le régime en fait de récupérer des devises étrangères, hein. C'est la seule raison pour laquelle ils sont ouverts aux touristes. Et donc je retourne à l'aéroport un peu avant mes compagnons de voyage qui eux restent plus longtemps, prendre l'avion pour retourner à Pékin. Alors à l'aéroport, petite anecdote, c'est que j'ai lu le Pyongyang Times, qui est le journal nord-coréen en anglais, où j'ai appris que pendant que j'étais en vacances, les Américains avaient déclaré la guerre nucléaire à la Corée du Nord. Bon, ça avait pas l'air de trop affoler tout le monde, donc je me suis dit, bon, bah, de toute façon on est encore là, hein, donc... je prends l'avion, j'atterris à Pékin. Alors j'étais dans l'aéroport qui est quand même bien chargé de monde. Hein. Et là je me dis, je suis enfin seul. Alors pas seul dans le sens où il n'y a personne autour de moi, mais j'ai plus les deux guides qui me surveillent. Et ça m'a levé un poids sur les épaules que j'avais presque oublié pendant ces 10 jours sur place et qui m'a fait réaliser, mais si moi je ressens ça au bout de 10 jours sur place, mais qu'est-ce que les gens là-bas doivent vivre au quotidien ?
Merci beaucoup pour ton récit.
De rien.
Pourquoi tu as voulu raconter ce voyage en particulier ?
En fait, ta question était assez intéressante puisque c'était quel est le voyage qui t'a le plus marqué ? En général, les gens ils demandent plutôt quel pays est le plus beau, quel pays t'as préféré, etc. Et la Corée du Nord, c'est vraiment le voyage qui m'a le plus marqué dans la mesure où c'est celui auquel je pense le plus souvent. C'est un voyage qui a eu lieu en 2014, donc ça commence à dater. Mais souvent, quand j'ai un moment de libre, quand je pense au voyage en général, quand je vois ce pays dans l'actualité en général pour des mauvaises raisons, je repense à mes jours là-bas, je repense aux gens que j'ai rencontrés, je me dis qu'est-ce qu'ils sont devenus, j'ai aucun moyen de savoir, qu'est-ce qu'ils pensent de la situation, est-ce qu'ils vivent bien, est-ce qu'ils sont encore vivants, est-ce qu'ils se sont fait arrêter, c'est possible aussi, je ne sais pas. J'y repense souvent, et en particulier aujourd'hui, puisqu'on a parlé de propagande par exemple, on voit aujourd'hui la situation qui est très compliquée avec la guerre en Ukraine, où j'ai des amis, qu'ils soient ukrainiens ou d'ailleurs, qui en fait expliquent que finalement tous les Russes sont à blâmer. Moi j'ai vu, alors certes seulement pour une dizaine de jours, sur place, ce que veut dire la propagande, parce qu'on s'en rend pas compte quand on n'y est pas, à quel point les gens peuvent avoir le cerveau lavé et avoir des réflexions ou des réactions que nous, on se comprend pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous dit que 80% des Russes, par exemple, soutiennent la guerre en Ukraine. On dit d'une, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être complètement faux, puisque c'est des sondages potentiellement bidonnés. Et surtout, c'est pas forcément de leur faute, eux aussi sont victimes. Comme les Nord-Coréens sont victimes de leur régime complètement despotique, absurde, mégalomaniaque.
Tu faisais une réflexion intéressante dans ton récit, à savoir la responsabilité du touriste ou du voyageur d'aller dans tel ou tel pays. Moi, je voulais savoir un peu quels étaient tes blocages. Moi, je sais, typiquement, j'irai jamais à Dubaï parce que ça représente un peu tout ce que je déteste. Toi, si tu acceptes d'aller en Corée du Nord, où tu n'irais pas ?
Alors, pour le coup, une fois que j'ai accepté d'aller en Corée du Nord, c'est difficile de citer un autre pays parce que c'est quand même le pays, entre guillemets, le pire qu'on puisse trouver. Avec l'Érythrée, et c'est à peu près tout, je crois, en dictature vraiment sanguinaire, c'est vraiment sans doute le pire pays. En fait, cet aspect moral est lié au fait qu'en tant que touriste, on apporte des devises. Et c'est ce que disent les détracteurs, en fait, du tourisme en Corée du Nord. Ils disent, vous apportez de l'argent au régime. Et également, vous légitimez le régime, puisque les Nord-Coréens peuvent voir des Occidentaux qui déambulent chez eux, avec derrière la propagande nord-coréenne qui disent « Bah vous voyez, notre pays il est tellement bien qu'il y a même des Occidentaux qui viennent ». Moi je le voyais pas exactement comme ça, je le voyais surtout pour eux comme une fenêtre sur le monde en fait. Parce qu'on a eu la chance lors de ce voyage de faire quelques activités avec des locaux. Parfois on a dû insister vraiment auprès de nos guides pour aller à la rencontre des locaux. À un moment on était sur une plage privée, on était les seuls sur la plage. On leur a dit « Non mais... il y a une page publique là-bas qui est bondée de monde, on veut aller là-bas, quoi. » Les guides, ils voulaient pas. On a dit, ben, c'est soit ça, soit on se barre, on va pas rester là comme des abrutis sur notre plage tout seul. Donc on est allé, on a pu rencontrer des gens là-bas, même si c'est compliqué, parce qu'il y a la barrière de la langue, mais ça permet, je pense, pour nous déjà, de se rendre compte que les Nord-Coréens, finalement, c'est des gens comme nous. Parce que c'est une question qui est revenue souvent après mon voyage. Hein. Les gens me demandaient, mais alors, ils sont comment, les Nord-Coréens ? Ben, c'est des humains, hein. ils rigolent, ils pleurent, ils ont des rêves, des espoirs, etc. Donc ça a permis à nous de nous rendre compte de ça, pour ceux qui ne le savaient pas, et à, pour eux aussi de voir que finalement l'étranger, contrairement à ce que dit leur propagande, c'est pas forcément un ennemi. Il y avait des Américains dans mon groupe, les Nord-Coréens ont bu des bières avec eux, et se sont bien rendus compte, on leur disait, hein, en fait, vous savez, on n'a pas envie de vous attaquer, hein. Personne ne veut vous attaquer, en fait, la Corée du Nord, concrètement, enfin dans les faits, on parle pas vraiment de vous, tout simplement. Alors que eux, ils sont abreuvés d'informations leur disant « on est seul contre tous ». Quoi. Donc je pense qu'il y a, il y a ce côté fenêtre dans le monde qui peut être intéressant pour eux. Après, je suis aussi bien conscient que c'est aussi une manière pour moi de légitimer ce voyage et de me donner votre conscience.
Pour ouvrir de manière générale sur ta vision du voyage et ta manière de voyager, comment tu prépares tes voyages et quelle place tu laisses à l'improvisation une fois que tu es sur place justement ?
Alors la Corée du Nord c'était particulier parce que c'était un voyage organisé, donc il y avait zéro improvisation. Pour le reste, j'essaye de trouver le juste équilibre en fait entre un voyage que je prépare un peu, mais en laissant en fait pas la place à l'improvisation, mais en laissant la surprise. En fait j'aime assez peu, enfin je lis peu de guides de voyage, ou de blogs, etc. Je vais pas voir de photos avant, pour pas me spoiler tout simplement. En général, quand j'organise un voyage, j'organise par région. Par exemple, j'étais au Chili en décembre, j'avais décidé de faire une semaine vers Atacama, quelques jours vers Santiago du Chili, donc 3-4 jours, et une semaine vers Puerto Montt. Je me dis, sur place, j'aviserai en fonction des choses qui ont l'air intéressantes, en fonction de ce que me disent aussi les gens, de ce qui est intéressant de voir. Alors forcément, avant de partir, je note quand même, d'ailleurs je choisis un pays un peu comme ça, des endroits qui ont l'air vraiment bien, mais souvent je lis tel endroit c'est un incontournable, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais on me dit c'est un incontournable donc je vais quand même y aller. Et j'ai la surprise en arrivant sur place, bah, parfois plus ou moins bonne, hein. Je vais me dire bah, ça valait vraiment le coup, et heureusement que j'ai pas regardé un documentaire d'une heure et demie sur ce palais avant de venir, parce que sinon j'aurais pas eu du tout l'élément de surprise.
Qu'est-ce que tu prendras toujours avec toi dans ton sac quand tu voyages ?
Alors je suis quelqu'un de très pragmatique et rationnel, donc j'ai pas de gris-gris ou de porte-bonheur, et en gros, là, quand j'ai fini mon sac, que je m'apprête à partir à l'aéroport, je me dis toujours au moment d'ouvrir ma porte, est-ce que j'ai ma carte bancaire et ma brosse à dents ? Tout le reste, finalement, ça s'achète. Le seul, finalement, et d'ailleurs, ça marche avant le voyage et ça marche après, je ramène très rarement des souvenirs de voyage. Je ramène simplement un magnète par pays. Mais sinon, non, je prends... J'ai pas de souvenirs, j'ai pas de gris-gris. Je prends même pas de livres, alors que je lis beaucoup habituellement. Mais en fait, en voyage, je lis beaucoup moins qu'ailleurs, parce qu'en général, je suis claqué à la fin de la journée. Donc, avant, je le faisais, hein, je prenais toujours un livre en me disant au cas où. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais jamais le temps de les lire.
Comment tu racontes et comment tu documentes tes voyages ? Est-ce que tu as un médium préféré pour le faire ?
Alors j'ai un blog de voyage où j'essaye de raconter, en fait j'essaye de prendre le temps de raconter mes voyages en les écrivant au fil de l'eau. Donc c'est-à-dire soit tous les soirs, ou alors quand il y a du transport dans les trains, les bus, etc. J'essaye vraiment de raconter ce qui s'est passé le jour même ou la veille au pire. Je le fais pas après coup, parce que je me suis rendu compte que c'est beaucoup moins naturel, que je reprends un peu mon rôle de journaliste. Je suis beaucoup plus objectif en fait... Et je raconte de manière un peu plus plan-plan mes voyages quand j'y repense 15 jours après. Alors que sur le moment même, quand je tiens ce journal, en fait, j'y mets ce que j'ai vu, mais j'y mets aussi mes sentiments, mes réflexions, etc. Donc l'écriture, c'est vraiment un bon moyen, je trouve, de capter le voyage sur le moment. Plus que les photos, par exemple. Parce que les photos, ça permet de garder des bons souvenirs, mais il n'y a pas les sentiments derrière.
Une fois que tu es de retour au pays, est-ce que tu as atteint du blues post-retour ? Et si c'est le cas, comment tu te soignes ?
Pas du tout. À une époque, oui. À une époque où je voyageais moins, parce que j'avais moins de congés, moins d'argent aussi, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est aussi le nerf de la guerre. Et aussi une époque où mon job me plaisait moins. Donc concrètement, c'était un peu pas une souffrance, mais c'était difficile de revenir, parce que je me disais, voilà, je reviens dans ma routine. Aujourd'hui, j'ai un job qui me plaît vraiment, et surtout j'ai la possibilité de voyager beaucoup plus qu'avant, parce que j'ai pas mal de jours de congé, j'ai un manager très sympa qui me laisse partir à peu près quand je veux, et du coup finalement j'ai pas de blues du voyage, parce que je sais que le prochain voyage aura lieu dans pas très longtemps, et que même si je n'ai pas de voyage de prévu, Finalement, rien ne m'empêche de partir un week-end quelque part pour changer d'air. Pas forcément loin, hein. Je parle pas de prendre l'avion, de cramer une tonne de carbone pour aller passer le week-end à Berlin, mais rien que d'aller en Bretagne, par exemple, où j'ai de la famille, ou ailleurs en France, ça permet aussi de se vider un peu l'esprit et de découvrir autre chose, parce qu'on a quand même un beau pays.
Quelle est ta vision des rencontres en voyage? Est-ce que c'est plus des relations à usage unique ou des relations qui durent? Est-ce que tu gardes contact avec les gens que tu rencontres en voyage? Et quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué?
En fait, les rencontres en voyage, pour moi, c'est comme les rencontres ailleurs. Je ne vois pas de différence entre une rencontre de quelqu'un au bout du monde ou une rencontre à Paris, à la terrasse d'un café. Donc ça dépendra vraiment de la personne. Il y a certaines personnes, ce seront des rencontres à usage unique, entre guillemets. Mais c'est pas vraiment l'expression que j'emploierais, puisque il n'y a pas d'usage. C'est finalement une rencontre qui a lieu, qui n'aboutit sur rien, parce que on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt, ou que ça colle pas, tout simplement, comme partout. À côté de ça, il y a des rencontres où tout de suite, on sent qu'il y a quelque chose qui se crée, il y a un lien, et ça, ce lien va perdurer. Il y a des voyageurs que j'ai rencontrés, alors soit des locaux, soit des voyageurs, que j'ai rencontrés lors de mes voyages, avec qui j'ai gardé contact. Et aujourd'hui, après, on va dire, 10 ans de voyage vraiment intensif, quand je vais dans un pays, c'est assez rare que je n'aille pas voir quelqu'un, en fait, soit quelqu'un qui est sur place. C'est un pays où je suis déjà allé, soit un local que j'ai rencontré à un voyage précédent, ou juste d'autres voyageurs qui voyagent aussi et qui se trouvent au même endroit que moi à ce moment-là. Donc oui, la rencontre en voyage, pour moi, c'est une rencontre tout court. Et d'ailleurs, je trouve que la question est assez étrange, parce que ça signifierait en fait que le voyage ne fait pas partie de la vie, est un peu quelque chose à l'écart, quelque chose qu'on pourrait, une fois rentré, oublier, et c'est pas du tout ma vision des choses, en fait. Enfin, de ce fait, la suite logique, c'est que oui, il y a des rencontres qui m'ont marqué, une personne en particulier, forcément, c'est une fille, que j'ai rencontrée en Transnistrie, donc un pays dont on parle beaucoup aussi actuellement, hein, qui est un petit pays qui a fait sécession de la Moldavie, qui se trouve entre l'Ukraine et la Moldavie. J'ai rencontré une fille là-bas en 2015. On a été très proches assez rapidement. En fait, j'ai eu un coup de foudre pour elle dès le premier de notre premier repas ensemble, hein, puisque le lendemain, je devais partir en Roumanie. J'ai pris le train, 13 heures de train. Arrivé en Roumanie, je me suis dit non, mais il faut que je la revoie. En fait, j'ai envoyé un message. Je lui ai dit t'es dispo pour dîner? Elle m'a dit mais t'es pas en Roumanie? Je fais si. Mais je vais rentrer parce que j'ai envie de te voir. Donc je suis rentré, ça a été le début d'une belle histoire, une histoire un peu compliquée, mais une histoire qui dure encore, une histoire d'amitié, hein, je précise. C'est la dernière personne à qui j'ai envoyé un message avant d'arriver ici. Hein. Donc cette rencontre m'a eu une grande importance dans ma vie. Et c'est une rencontre de voyage, une rencontre d'une fille dans un resto. Il n'y avait aucune raison finalement que ça ait lieu, cette rencontre. Elle aurait pu avoir lieu dans n'importe quel endroit, elle aurait pu avoir lieu dans un resto à Paris exactement de la même façon. C'est pour ça que je fais assez peu de différence entre toutes les rencontres.
Pour se parler du futur maintenant, quels sont tes futurs projets et des endroits que tu as absolument envie de visiter?
En futur projet, là je suis en train de préparer un voyage cet été en Turquie, où je suis invité à un mariage, et justement un mariage de personnes que j'ai rencontrées en voyage. Un ami new-yorkais que j'ai rencontré là-bas, qui s'est marié avec une Turque, que j'ai rencontré, elle, en Antarctique, puisqu'on était finalement, on s'est retrouvés sur la même croisière, tous les trois, donc il m'a présenté sa fiancée. Ça a collé tout de suite, bon, forcément avec mon ami, je le connaissais, mais même avec elle, on a tout de suite créé des liens assez forts, et donc ils m'ont dit, le mariage, c'est en Turquie en septembre, est-ce que tu veux venir? J'ai dit oui. Donc je prépare, je me dis, quitte à aller là-bas, j'aimerais bien visiter un peu plus à la Cappadoce notamment, donc je prépare ça, et également, quitte à aller en Turquie, en Cappadoce, j'aimerais bien aller en Géorgie, qui est un pays que je veux visiter depuis très très longtemps, pour une raison complètement stupide, hein, c'est qu'un jour j'ai vu leur alphabet, je me suis dit, wow, c'est le plus bel alphabet que je connaisse, on dirait de l'elfique, donc si ils ont de si belles lettres, ça doit être un beau pays, donc ça m'a donné envie d'y aller, donc j'espère y aller cet été. Ensuite, je prévois sur la fin d'année d'autres voyages, mais je ne sais pas encore... Je ne sais pas encore où, j'ai quelques idées, pas très morales, puisqu'il y a un de ces pays, c'est l'Iran, qui est une civilisation qui me fascine, qui a l'air d'être une beauté assez inimaginable aussi. Donc c'est voilà, c'est un pays que je souhaite visiter depuis pas mal de temps, que je devais visiter en 2020, ça a été annulé à cause du Covid. Donc j'espère y aller en fin d'année. Mais j'hésite avec la Colombie, voilà, un pays qui a vécu des années difficiles, qui se reconstruit maintenant, enfin qui s'est reconstruit, hein, un pays maintenant complètement sûr, etc. Et que j'aimerais beaucoup visiter, tout simplement parce que j'ai des amis colombiens qui m'invitent, qui veulent me faire découvrir un peu leur pays.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Tu as un petit espace qui t'est réservé, dans lequel tu peux partager une anecdote, une recommandation, un proverbe, une citation. C'est à toi.
Alors l'anecdote, on va retourner en Corée du Nord. C'est une anecdote toute bête. Pendant un repas, il y avait mon voisin de table, en fait, qui était sur son téléphone en train de regarder Facebook. Et je suis sur son téléphone et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es sur Facebook? Il fait oh bon rien, je regarde des nouvelles. Je m'étais au courant que t'as pas de réseau en fait depuis 5 jours. Et là il lève la tête, il me regarde, il fait ah, mais oui mais t'as raison en fait. J'ai par habitude, il scrollait son téléphone et il avait oublié qu'il avait pas de réseau. Donc tout ça pour dire que il faut pas hésiter à finalement couper. Et je l'ai revécu en décembre, je suis allé en Antarctique, juste après le Chili. J'ai passé 15 jours sans téléphone, sans rien du tout, même sans accès aux nouvelles. Et ça fait un bien fou. On était tous sur le bateau, en Corée du Nord et sur le bateau en Antarctique, à se dire, mais qu'est-ce qu'on est bien sans nos téléphones? C'est une espèce de boulet qu'on s'est mis au pied. On n'arrive pas à s'en défaire. Alors on se dit, hein, ah, je vais essayer de faire attention, etc. Mais on n'y arrive pas. Et c'est quand on est forcé de le faire qu'on se rend compte vraiment à quel point on est dans un état de dépendance vis-à-vis de nos téléphones. Donc j'ai envie de dire, bourlinguez et n'oubliez pas de couper vos téléphones.
Merci beaucoup.
Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi écouter Bourlinguer sur la web radio Voyage, Allô la planète. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui.